Question d'islam par Khaled Benchir. Nous parlerons de pardon, de réconciliation, de châtiment, de péché, de haine, de vengeance et comment subsumer tout cela avec Shawkat Mukarri. Bonjour.
Bonjour Khaled, merci de me recevoir.
Je vous en prie, c'est vraiment un grand plaisir. Merci, vous qui êtes à la fois théologien, aussi islamologue, et vous aimez aussi qu'on dise, alors que d'aucuns n'aiment pas qu'on rappelle les origines quand on est citoyen français faisant partie de la nation, mais vous, vous tenez, et à juste raison, de dire que vous êtes d'origine syrienne, vous avez grandi dans la ville d'Alep, chrétien, et vous êtes très tôt intéressé à l'univers islamique.
Oui, il n'y a pas de raison que je fais comme si mes origines syriennes ne comptaient pas. J'ai passé 18 ans en Syrie, ce sont des années très importantes dans la formation de la personnalité. Je suis fier de mon héritage syrien, notamment l'héritage chrétien de la Syrie. Vous savez peut-être que c'est à Antioche de Syrie que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. Et c'est sur la route de Damas que Saul est devenu l'apôtre Paul.
Saoul de Tarse est devenu finalement Paul et j'ai cru comprendre qu'il est le fondateur du christianisme. Pour certains.
Il a participé sans doute à la formulation de la doctrine chrétienne, il n'y a pas de doute.
Alors, après avoir fait des études brillantes, et je le dis, je le pense, et notamment à l'école pratique des hautes études, vous êtes allé en Grande-Bretagne y enseigner, cette fois-ci, l'islamologie.
Oui, l'islamologie dans une faculté chrétienne qui s'appelle All Nations Christian College au nord de Londres. Et j'ai passé 12 ans à enseigner l'islamologie, mais aussi les rapports entre le christianisme et l'islam. J'ai aussi enseigné quelques autres matières, étant donné mes origines moyen-orientales. Cela ne pouvait pas être autrement.
Oui, et vous avez travaillé comme ça, on aura au moins eu le portrait de l'islamologue que vous êtes, et vous avez travaillé à la World Vision International, qui est une ONG chrétienne dans l'humanitaire.
C'est ça, c'est une ONG assez importante. Elle compte à peu près 40 000 employés de par le monde, et elle travaille dans beaucoup de pays, 80 pays environ, dont la moitié des pays non chrétiens, y compris une vingtaine de pays à majorité musulmane. Et donc, c'était pour moi une grande joie de pouvoir me déplacer dans ces pays, en particulier les pays musulmans, pour rencontrer nos employés et engager un dialogue avec eux. Et mon objectif était de souligner toutes les valeurs communes entre le christianisme et l'islam, qui rendent possible la collaboration entre chrétiens et musulmans. Non pas seulement rendent possible, mais obligatoire pratiquement, la collaboration entre les chrétiens et les musulmans pour l'avancement du bien commun dans la société.
Shawkat Mukarri, nous revenons, si vous voulez bien, au cœur de notre émission aujourd'hui, consacrée au pardon dans sa double dimension, à la fois verticale et horizontale. Cette double animation, comme disent certains, c'est quand elle est verticale, c'est que pour les croyants, Dieu leur pardonne, et on verra cela aussi bien dans la théologie islamique et son pendant dans la théologie chrétienne, et aussi la dimension horizontale lorsque les hommes se font mutuellement pardon entre eux afin d'aplanir les difficultés qui sont les leurs. En ces temps incertains, difficiles, de haine exacerbée, de tension, hélas aussi de terreur, d'épouvante, de violence, et notamment de violence religieuse, et l'islamisme politique, l'extrémisme religieux islamiste a beaucoup à se faire pardonner?
Je ne sais pas. Je ne veux pas mettre sur le dos de tous les musulmans ce que commettent au nom de l'islam une minorité infiniment petite. Ce que j'ai constaté, c'est que depuis les événements tragiques du 11 septembre, beaucoup d'Occidentaux, y compris des Français, ont eu une idée totalement déformée de l'islam. Au point que lorsque je disais, comme ça au passage, que j'ai fait ma thèse de doctorat en islamologie sur le pardon dans l'islam, ils étaient bouche bée. Ils ne croyaient pas que le pardon existait en islam. Et donc le livre publié récemment est basé sur cette thèse. Donc je trouve qu'il est extrêmement important pour tout le monde, tous ceux qui connaissent l'islam un petit peu, qu'ils puissent parler de l'islam d'une façon objective. Et donc, je considère qu'il est de mon devoir en tant que chrétien aussi de mettre en lumière tous les aspects de l'islam qui vont peut-être à l'encontre des idées et des préjugés que se font nos contemporains. Et l'idée de la bonté et du pardon de Dieu en fait certainement partie.
Oui, nous verrons cela tout au long de l'émission. L'idée, c'est aborder ces sujets avec froideur d'esprit, distanciation, objectivité, loin du tintamarre habituel quand il s'agit du fait islamique. Condamner le condamnable, réprouver le répréhensible, c'est vrai, et mettre en avant et en exergue ce qui est méconnu, c'est aussi le rôle des islamologues probes intellectuellement. Shawkat Mukhari, cet ouvrage que les auditeurs trouveront sur le site et que je présente, À tout péché miséricorde, où vous parlez du pardon, du châtiment aussi, à la fois dans la tradition religieuse islamique, mais aussi dans le christianisme, en renvoyant à une forme d'analogie ou d'homologie entre les deux traditions. Comment est venue votre volonté de soutenir une thèse de doctorat sur ce sujet?
Bien, je dirais que le pardon fait partie de l'expérience humaine. En général, qu'on soit chrétien, musulman, juif ou n'importe qui, c'est une expérience qui peut changer la vie. Lorsque on a manqué de pardon, ou bien lorsque on a pu parvenir à pardonner aux autres. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le pardon se trouve au cœur de l'Évangile. Donc, en tant que chrétien arabe, je voulais aussi voir ce que dit l'islam concernant ce qui constitue le cœur de l'Évangile. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, a chargé ses disciples de témoigner de l'Évangile et il a résumé cet Évangile dans l'évangile de Luc chapitre 24, en ces deux mots, conversion et pardon des péchés. Et puis, une troisième raison, c'est que dans mes contacts avec les Arabes et les musulmans, surtout lorsque je travaillais comme aumônier auprès des étudiants, ils me posaient des questions.
Les Arabes chrétiens, musulmans?
Non, musulmans. Musulmans,
Arabes, musulmans, d'accord.
Les Arabes, en général, il y avait évidemment des chrétiens, mais la majorité des amis auxquels j'avais affaire, c'était des Arabes musulmans, ou bien des musulmans qui n'étaient même pas des Arabes aussi. J'ai connu beaucoup d'Iraniens, de Sénégalais, etc.
Enfin, la précision est de rigueur ici, parce que l'identification arabe et musulman ne va pas de soi.
Exactement. Et il y a quatre fois plus de musulmans qui ne sont pas des Arabes que des Arabes qui sont des musulmans.
Peut-être même davantage, et on dit que la minorité musulmane en Inde est beaucoup plus importante que les Arabes musulmans.
Oui, on dit qu'il y a à peu près 200 millions de musulmans en Inde. Donc, il me posait des questions, pas seulement sur le pardon, hein, sur la fiabilité de la Bible, sur Jésus-Christ, sur le pardon. Donc, je me suis senti contraint d'étudier l'islam d'une façon académique, d'où mes études d'islamologie. Parce que les musulmans, je les ai connus depuis que j'étais enfant en Syrie. Donc, on avait des discussions sur toutes sortes de choses, y compris sur la foi. Mais il me manquait une connaissance académique de l'islam qui me permette de faire le lien entre mon identité chrétienne et mon identité, j'allais dire arabo-musulmane, hein, parce que même quand on est chrétien...
D'un point de vue civilisationnel.
Ça, c'est ça, d'un point de vue culturel. Donc... j'avais besoin de faire le lien et puis aussi de pouvoir répondre simplement aux questions qui m'étaient posées par mes amis musulmans.
Chawkat Moukhari, que répondriez-vous d'emblée à ceux qui disent « Oui, mais discourir sur le pardon, c'est facile quand on est lésé, quand on a le cœur rongé par le ressentiment, par la haine ?» D'emblée, parce que après nous verrons ensemble le pardon au cœur de la théologie abrahamique, judéo-islamo-chrétienne. Quand vous parliez de Luc et que c'est au cœur de l'évangile, à juste raison, j'ai pensé en résonance à un passage chez Néhémie où il parle de Dieu très lent à se mettre en colère, prompt dans sa bonté à pardonner. Alors que répondez-vous d'abord à ceux qui disent que c'est avant tout une approche expérientielle que discursive?
Je crois qu'il y a les deux. Quand on est, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pardon, ça fait partie de l'expérience humaine. Et croyez-moi, en tant que membre d'une famille, j'ai connu aussi les problèmes liés au pardon, ou plutôt au manque de pardon. Et puis aussi, en tant que membre d'une communauté chrétienne en Syrie, je n'aime pas le mot, mais disons, c'est une communauté minoritaire. Il y a aussi des tensions entre les musulmans et les chrétiens, qui ont des raisons multiples, historiques. C'est une animosité non avouée, sourde, mais qui n'est pas moins existante. Et donc là aussi, j'ai pu faire mon cheminement pour accepter, et pas seulement accepter, mais aimer les musulmans, et essayer de me débarrasser des préjugés que j'avais à leur égard. Et je dois dire que c'est une expérience libératrice. Et si seulement mes co-religionnaires pouvaient connaître aussi le pardon de Dieu à ce niveau très personnel.
Avant de revenir aux considérations spirituelles et théologiques, j'ai cru comprendre aussi que dans des approches thérapeutiques chez des psychanalystes, il y a cette recommandation ou ce conseil à assainir le cœur de toutes les rancœurs.
Oui, c'est aussi une expérience libératrice sur le plan psychologique, sur le plan personnel. Vous savez, la foi, si elle est vraie, elle doit être vivante. Et si elle est vivante, elle doit impacter tout notre être, toutes les relations que nous avons avec les autres, avec soi-même, avec Dieu, notre Créateur. Donc, c'est aussi une guérison intérieure que de connaître le pardon de Dieu au niveau personnel, au plus profond de soi. Mais c'est une expérience aussi qui se renouvelle jour après jour. Dans la prière du Notre Père, on demande tous les jours « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Donc ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, mais c'est une expérience qui se renouvelle pratiquement tous les jours.
Bien. Alors, cette fois-ci, une approche théologique nous fera dire que Dieu est clément, miséricordieux, plein de mansuétude, de magnanimité, dans le corpus coranique.
Oui, bien sûr. Vous savez, on dit parfois que les trois religions monothéistes, abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam, se distinguent l'une de l'autre par la caractérisation de Dieu. Et j'ai lu que le Dieu dans le judaïsme serait un Dieu de justice, dans le christianisme un Dieu de bonté, et dans l'islam un Dieu de souveraineté, le Dieu souverain. À vrai dire, les choses ne sont pas aussi simples que cela, parce que ces trois attributs divins, justice, bonté et souveraineté, se retrouvent dans chacune de ces religions.
D'aucuns disent aussi qu'on répartit entre ces traditions religieuses la foi, l'espérance et la charité. L'espérance, c'est pour le judaïsme, la charité pour le christianisme, la foi pour l'islam. Mais ça se retrouve aussi. Donc, il n'y a aucune raison de considérer, dans une approche typologique, qu'il y en ait une qui se caractérise davantage que les deux autres, si on reste dans la famille abrahamique, par ce qui est commun au monothéisme abrahamique.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et pas seulement cela, à l'intérieur même de l'islam se retrouvent ces trois attributs, et dans mes études, j'ai constaté que la pensée musulmane se divise en trois grandes écoles selon que l'on privilégie la justice de Dieu, comme dans la théologie mu'tazilite, ou bien la bonté de Dieu, comme dans le soufisme, c'est-à-dire la mystique musulmane, ou bien la souveraineté de Dieu, comme dans la théologie ash'arite.
Sunnite. Parce que vous connaissez ces choses-là, nos amis auditeurs, pas nécessairement, même s'ils s'y intéressent, et nous les remercions. L'école mu'tazilite, c'est l'école de ceux qui se sont mis à l'écart, qui se sont isolés étymologiquement, mais c'est une école rationaliste. Et l'école ash'arite, c'est l'école, disons en gros, prédominante dans le sunnisme. Et à juste raison, vous avez parlé de la mystique islamique qui met au cœur de ses préoccupations, de ses spéculations, si je puis dire, la bonté de Dieu et sa miséricorde.
C'est ça. Et tout le monde sait que toutes les sourates du Coran, à l'exception de la 9e, commencent par cette invocation, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu le bienveillant, le bienfaisant.
Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec l'islamologue Shawkat Mukarri. Et aujourd'hui, nous parlons de pardon et de réconciliation, la rémission des péchés, le pardon mutuel entre les hommes. Shawkat Mukarri, vous êtes, je l'ai dit, islamologue, vous êtes chrétien, vous-même théologien dans la tradition religieuse chrétienne. Vous avez enseigné en Grande-Bretagne et vous êtes aussi impliqué dans le dialogue interreligieux et vous dirigez des travaux de jeunes étudiantes musulmanes et qui travaillent sur la théologie chrétienne et notamment la divinité de Jésus et selon le Concile de Nicée. Ce sont des choses que j'ai réussi à glaner vous concernant. Vous parliez donc de ces trois tendances, trois écoles au sein même de la tradition religieuse islamique, l'école des rationalistes, l'école des sunnites, un peu selon la tradition, et puis l'école des mystiques, par rapport au pardon.
C'est ça. Et donc, concernant le sujet qui nous préoccupe, le pardon de Dieu, j'aimerais aussi ajouter que parmi les plus beaux noms de Dieu en islam, Asma'ullah al-Husna, il y en a plusieurs qui ont un rapport direct avec le pardon, notamment Ghafir, qui est d'ailleurs le titre de la 40e sourate, avec les deux formes intensives, Ghafour et Ghaffar. Il y a aussi...
Alors, Ghafour, Ghaffar, c'est celui qui remet les péchés, celui qui pardonne.
Oui, on a, disons, les exégètes ont avancé plusieurs explications à cet intensif. Quelle est la différence entre Ghafour et Ghafir, entre Ghaffar et Ghafir? Donc, les explications sont multiples. Et puis, il y a le nom Al-Afou, le clément. On peut aussi ajouter Al-Tawwab, celui qui revient vers les pécheurs lorsque ces pécheurs reviennent vers lui.
Quand le pécheur vient à résipiscence, Dieu va à sa rencontre. Il retourne vers lui, ou accepte en tout cas son repentir.
Et il y a même dans le Coran un texte qui semble indiquer que c'est Dieu qui prend l'initiative, qui revient au pécheur, et c'est à ce moment-là que ces pécheurs reviennent à lui. Donc l'initiative est d'abord divine, et le fruit de cet acte divin, c'est le retour du pécheur à Dieu. Et puis il y a évidemment aussi d'autres noms divins qui sont en rapport avec le pardon, comme Halim, je crois que tout à l'heure vous avez lent à la colère, comme Sabour, longanime, ou bien... Et puis le prophète lui-même, il est appelé Nabi Yutawba, le prophète de la conversion, ou bien du repentir, ou bien du retour, selon que l'on...
De la métanoïa.
Exactement, la métanoïa étant le mot grec qui correspond à la Tawba arabe. Et puis il est aussi appelé Nabi Yurrahma, le prophète de la bonté, ou de la miséricorde, si vous voulez. Donc, il y a de quoi parler de la bonté de Dieu dans le Coran, mais aussi dans le hadith étant la tradition prophétique, lorsque, par exemple, il est dit « Sabaqat rahmati ghadabi »« Ma bonté a devancé ma colère ». Donc, ce sont des textes bien connus.
Ce que vous dites me fait rappeler cet aphorisme ou cette sentence ou ce passage connu de la tradition dite sainte. Ce n'est pas du Coran, ce n'est pas la parole prophétique, mais on attribue à Dieu d'avoir dit qu'il a quantifié la miséricorde en 100 parts, il en a gardé 99 auprès de lui, il a fait descendre une part sur terre, et c'est de cette unique part, la centième, que la jument détourne son sabot de son poulain. C'est ainsi que les hommes se font mutuellement miséricorde, exactement, que d'une part sur 100 de la miséricorde divine.
Exactement. Et tout comme donc dans l'islam, Dieu n'est pas simplement un Dieu de justice, mais un Dieu de bonté et de miséricorde, parfois on parle, à mon avis, à tort, du christianisme comme si c'était simplement une religion d'amour, de bonté, en faisant fi de tous les textes de l'Évangile où Jésus parle du jugement. Par exemple, ce matin, je lisais un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, où Jésus annonce la destruction de Jérusalem en l'an 70 et la présente comme la conséquence de son rejet par son peuple. Jésus parle dans beaucoup de paraboles du jugement dernier. La parabole, par exemple, des chèvres et des moutons. Jésus parle de l'enfer dans des termes qui doivent nous faire réfléchir. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, il dit à des gens qui n'étaient pas particulièrement pécheurs, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Il donc considère comme acquis le fait que tous les hommes sont pécheurs et méritent le jugement de Dieu. Et pourtant, il parlait à des Juifs, donc des Juifs religieux, des Juifs qui connaissaient Dieu, mais en l'occurrence, il parlait de la repentance dans le sens du retour à Dieu, non pas par des rites extérieurs, mais le retour du cœur, le retour spirituel à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a commencé d'ailleurs son ministère en disant « Repentez-vous ou bien convertissez-vous », la fameuse « métanoïa », et croyez à la bonne nouvelle ou à l'évangile. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que le message, c'est un message d'amour et de pardon. Mais il ne faut pas faire comme si la justice de Dieu ne comptait pas ou le jugement de Dieu n'existait pas. Et je dois dire que je suis un peu irrité par ce discours un peu mièvre que j'entends de la part de beaucoup de théologiens chrétiens, comme si il n'y a que de l'amour en Dieu. Et là, je vois qu'il y a un rapprochement précisément entre le christianisme et l'islam dans la mesure où les deux religions parlent aussi de la justice de Dieu. Dieu est juste, et qui dit juste, ça veut dire il pratique le jugement, il pratiquera au dernier jour le jugement. Pourquoi? Parce que il nous a créés comme des êtres responsables. Donc nous devons rendre compte de nos actes et de nos vies. Donc je vois là un rapprochement à faire entre le christianisme et l'islam dans la mesure où les deux religions parlent, bien entendu, de la bonté de Dieu, mais aussi de sa justice et de sa souveraineté.
Alors, d'aucuns, notamment parmi les islamologues et les historiographes, disent que certaines valeurs préexistaient à l'avènement de la révélation coranique dans la péninsule arabique, comme la magnanimité, la longanimité, la mansuétude, parce que les conditions de vie étaient terribles, il y avait des razzias, des hostilités, et en même temps, simultanément, en magnifiait la question de l'accueil, l'asile, le droit d'asile érigé au rang d'une valeur sacrée, et que finalement la tradition religieuse islamique a islamisé en quelque sorte ces valeurs arabes du temps de la gentilité et du temps du paganisme.
Oui, bien sûr, cela est tout à fait plausible. J'ajouterais que il y avait aussi des communautés chrétiennes et des communautés juives en Arabie, partout en Arabie, évidemment à Médine, mais aussi à la Mecque. D'ailleurs, la tradition musulmane parle de Waraqa bin Nawfal, qui était un moine chrétien en train de traduire l'évangile en langue arabe. Dans le sud de l'Arabie, il y avait aussi la communauté de Najran. Donc, les Juifs et les chrétiens étaient présents et ils employaient le mot Allah.
Et l'appellation arabe de la divinité.
Exactement. Donc, c'est pas l'islam qui a conçu le mot Allah. C'est les Juifs et les chrétiens arabophones qui adoraient Dieu. Et l'appeler Allah.
Le Dieu. Une contraction entre l'article Al et le mot Ilah qui renvoie à Dieu. Petit D, si je puis dire, ouais. Espèce Dieu. Donc le Dieu, l'unique, le Dieu, a donné Allah.
Oui, encore que certains philologues pensent que Allah, c'est le nom propre de Dieu. Mais bon, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Mais là encore, j'étonne beaucoup de Français et même de Français chrétiens lorsque je leur dis « Allah, c'est aussi mon Dieu. Et moi, j'adore Dieu, j'adore Allah et je ne peux adorer que Allah. »
Et vous adoriez God quand vous étiez en Grande-Bretagne.
lorsque je priais en langue anglaise. Oui.
Alors passons, si vous voulez bien, Sokhet Moukhari, au pardon dans sa dimension transversale ou horizontale ou dans la cité ou entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes. Nous avons à nous faire pardonner beaucoup de nos manquements. Et comment cela se passe à la fois d'un point de vue laïque dans une société sécularisée, mais aussi pour les croyants selon leur appartenance confessionnelle et selon l'élévation spirituelle à laquelle ils aspirent.
Bon, j'aimerais, si vous me le permettez, c'est de souligner le fait que le Coran parle aussi de ce pardon d'homme à homme dans au moins 18 versets. Et donc, j'aimerais quand même citer quelques versets. Par exemple, dans sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate.
La sourate de la vache.
Voilà. Il est dit « Al-afu aqrabu lit-taqwa ». Ça veut dire « pardonner est plus proche de la piété que de réclamer son droit ». C'est un texte qui est souvent mis en valeur par les exégètes. Il y a dans Surat Al-Imran, la famille de Imran, les croyants sont décrits comme « Al-Kadhimin al-Ghayd wal-Afina an-Nas », ceux qui répriment leur colère et qui pardonnent aux autres. Et dans Surat Al-Shura, Surat 42, il est dit aussi des musulmans « وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ » Et lorsque ils se mettent en colère, ils pardonnent. Donc, je ne veux pas citer tous les textes.
Il y en a davantage. Il y en a un que je vous cite de mémoire, c'est le verset 34 de la Sourate 41, celle dite des versets détaillés. Fossilat, en gros, c'est « Et quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair, rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. » Fin de citation du verset. Donc, la notion de patience face à l'adversité, se maîtriser au moment de la colère, réprimer son courroux, est une notion fondamentale.
Tout à fait. Dans le Coran, mais aussi dans l'enseignement du prophète, là encore, le prophète a dit « Afdalu akhlaqil muslimin al-afu ». La qualité morale la meilleure, c'est le pardon. Un jour, un homme s'est approché du prophète et lui a dit « Mon serviteur me fait du tort sans cesse. Dois-je le frapper ou bien lui pardonner ?» Et le prophète lui dit « Tu dois lui pardonner 70 fois par jour. » Ce qui d'ailleurs me rappelle la même question dans l'évangile où Pierre pose la question à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?»« 7 fois ?» Et Jésus lui dit, « Non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Et puis, remarquable aussi cette parole où le prophète dit, « Dieu qui est au ciel ne pardonnera sur la terre qu'à ceux qui pardonnent aux autres. » C'est aussi très proche de ce que l'on trouve dans l'Évangile, à savoir que on doit pardonner aux autres. C'est vrai qu'il y a une différence, en ce sens que l'islam ne fait pas du pardon aux autres une obligation, un commandement. Et les savants musulmans expliquent pourquoi. Je ne sais pas si j'ai le temps d'entrer là-dedans.
Je vous en prie, nous avons le temps.
Nous avons le temps. Bon, donc, le christianisme fait du pardon des autres un commandement parce que le pardon, c'est l'expression de l'amour. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime et je ne te pardonne pas ». Par contre, dans l'islam, il est dit que autant que faire se peut, il faut pardonner. Mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme faible. Et d'autre part, Dieu ne demande pas aux hommes quelque chose qui est trop pour eux. Parce qu'il est juste, justement, il ne leur impose pas quelque chose qui est au-delà de leur force.
Et l'homme est aussi pécamineux, pécheur, faillible, suffisant, arrogant.
C'est ça.
Enclin à la maladie, aux épreuves qu'il subit. Et parmi les épreuves, c'est ce que lui fait endurer son propre frère, l'homme. Alors, est-ce qu'il est tenu, alors vous dites, autant faire que se peut de lui pardonner, mais ce n'est pas un commandement.
Non, non. Et cela me rappelle certaines paroles que j'ai entendues de la part de Juifs qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, qui dit « je ne peux pas pardonner ». Ce que les nazis ont fait à moi ou bien à mon peuple. Donc, il y a une réelle difficulté. On ne peut pas demander, enfin exiger d'une femme qui a été violée qu'elle pardonne à son agresseur. C'est très difficile. Et je ne parle pas des Palestiniens dont la maison a été détruite par les autorités occupantes. On ne peut pas leur exiger qu'ils pardonnent. Donc, il y a un réalisme coranique, si j'ose dire, derrière le fait que on peut pas exiger, on peut encourager, mais pas exiger.
Et ceux qui ont eux-mêmes commis le forfait et le crime, quand ils sont rongés aussi par le remords, par le regret, et qui viennent demander pardon, je pense par exemple à tel terroriste ayant commis un attentat abject, et puis ou tel bourreau, finalement, il est en droit d'attendre cette acceptation ou pas de la part de la personne auprès de laquelle il a été, reconnaître son tort, pleurer son péché, si je puis dire, et demander pardon.
Je ne pense pas qu'il est en droit d'attendre qu'il soit pardonné de la part de la personne à qui il a fait du tort. Par contre, il peut demander pardon à Dieu. Et on sait que Dieu, il n'y a pas de péché impardonnable pour Dieu. Sinon, le rejet de Dieu lui-même.
Donc, ou l'associationnisme dans une approche théologique islamique chez les sunnites.
Voilà, tout à fait. Et donc...
C'est curieux cette affaire qu'il y ait un péché irrémissible.
Oui, il a d'ailleurs son cas, son équivalent dans l'Évangile. Cela me rappelle un texte d'ailleurs du Coran. « Man yaghfiru dhunuba illallah ». Ultimement, ce ne sont pas les hommes qui doivent nous pardonner. C'est Dieu, notre Créateur. C'est envers lui, c'est contre lui que nous avons péché. Et lui, on sait, il pardonne toujours. Au point que Al-Razi, qui est un exégète musulman bien connu, est allé jusqu'à dire « Pardonner pour Dieu, c'est facile, c'est son métier. » Eh bien, moi, je n'irai pas jusque-là. Parce que, justement, Dieu est aussi un Dieu juste. Et donc, il ne pardonne pas par indulgence. D'ailleurs, il y a le mot célèbre de Prévert qui dit « Pourquoi devons-nous louer Dieu pour son pardon ?» C'est son métier. Donc, ce n'est pas son métier. Dieu est saint, il est juste et il ne pardonne qu'à grand prix. Et pour les chrétiens, je me permets de dire que ce grand prix, c'est la vie de son fils. Son fils qui, d'ailleurs, un jour, en fait, trois fois au moins dans l'Évangile, il a pardonné lui-même à trois reprises, au point de scandaliser les chefs religieux autour de lui qui lui ont dit « Mais au nom de qui tu pardonnes les péchés ?» Et à une occasion, Jésus leur a répondu, pour vous montrer que j'ai le droit de pardonner les péchés, il a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Et il s'est levé. Et ainsi, il leur a donné la preuve qu'il avait le droit de pardonner les péchés. C'est pour dire que le judaïsme, l'islam et le christianisme s'accordent sur ça aussi, qu'il n'y a que Dieu qui puisse pardonner, parce que c'est lui le divin juge devant qui nous devons comparaître pour rendre compte de nos actions sur cette terre.
Sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de pardon, de réconciliation, de rémission des péchés, d'essayer de trouver l'entente entre les êtres humains aussi, avec Shawkat Mukhari, islamologue, théologien, professeur longtemps, notamment en Grande-Bretagne et ici, diplômé de l'École pratique des hautes études. Et vous avez écrit, entre autres ouvrages dont vous êtes l'auteur, « À tout péché miséricorde ». Et nous parlons de cette notion du pardon, à la fois dans la tradition religieuse islamique, et aussi c'est en résonance avec la tradition chrétienne et plus largement au sein du monothéisme abrahamique. Pour cette dernière partie, oui, je vous en prie.
Pourriez, par honnêteté intellectuelle, je m'en voudrais si je n'ajoutais pas que dans la pensée musulmane, c'est vrai que les musulmans doivent pardonner aux autres, sont encouragés à pardonner aux autres.
Sont enjoints à...
Voilà. Sauf qu'il y a quand même dans la pensée musulmane quelque chose qu'on ne peut pas ne pas mentionné, à savoir la révélation du verset du glaive en 624 de l'ère chrétienne. Ce verset du glaive, Ayatou Saif, qu'on trouve au chapitre 9, la sourate Tauba, repentir, donne l'autorisation aux musulmans de combattre leurs ennemis, que ce soit les polythéistes ou même les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Donc, un certain nombre d'exégètes musulmans disent que les versets qui encouragent les musulmans à pardonner aux autres ont été abrogés par la révélation du verset du glaive. Mais d'autres exégètes musulmans disent pas du tout, parce que le pardon des autres, c'est en fait une attitude qui est à la ressemblance de Dieu. Nous pardonnons aux autres parce que Dieu nous pardonne. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ayez la même disposition morale que Dieu. Donc Dieu n'a pas cessé de nous pardonner à partir du moment où le verset du glaive a été révélé. Donc, il considère que, sur le plan politique, oui, ce verset a marqué une rupture dans l'attitude des musulmans en tant que communauté vis-à-vis des autres communautés, polythéistes, juives ou chrétiennes. Mais l'attitude du pardon est toujours présente, est toujours à encourager, surtout parmi les individus, mais ce n'est pas exclu que ce soit aussi au niveau de la communauté. Donc je voulais mentionner cela parce que par honnêteté intellectuelle, si vous me permettez.
Il faut bien de la probité intellectuelle et vous avez raison. Alors d'aucuns diront que cette affaire d'abroger est une science qui relève de l'interprétation des hommes, in fine, et d'une construction humaine. Il y a ceux qui y tiennent, d'autres qui disent, selon la lecture que vous en avez donnée, qu'il y a des versets atemporels, métahistoriques, fondamentaux, et le fait de se comporter ou d'incarner, si je puis dire, les valeurs divines. D'autres disent non, on s'en tient à une révélation séquentielle et ce qui est révélé après abroge ce qui a été révélé avant. Pour cette dernière partie, Shawket Mukhari, que diriez-vous des personnages musulmans à travers l'histoire qui ont eu à pardonner? Alors, on cite Saladin, je ne sais pas si c'est amplifié ou pas, quand il a dit « pardonner, car pardonner, ça fait convertir les cœurs », juste après la bataille de Hattin et après lorsqu'il a repris Jérusalem.
Bon, les mauvais esprits diront qu'il a pardonné lorsqu'il est devenu en position de force. Mais moi, je ne veux pas...
Mais c'est ça la magnanimité, c'est quand on pardonne en position de force.
Oui, mais pardonner, ce n'est pas seulement quand on est en position de force. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de pardonner quand on est en position de force, mais même lorsque l'on n'est pas en position de force, il est important de pardonner. Donc, l'épisode que vous évoquez est un témoignage poignant sur le pardon venant de musulmans. Et pour moi, cela reflète aussi l'enseignement du Coran et l'enseignement du Hadith sur l'importance de pardonner aux autres. Donc, l'exemple de Saladin, et je peux vous citer d'autres exemples de musulmans qui ont pris l'initiative de se réconcilier avec leurs ennemis, y compris des chrétiens. Je sais pas, vous avez sans doute, vous connaissez l'imam, l'histoire de l'imam et du pasteur.
En Centrafrique.
Non, au Nigeria. Ce sont donc deux chefs religieux très convaincus de leur foi, un musulman et un chrétien, qui se sont battus les uns contre les autres au point que le pasteur a perdu son bras. C'est une histoire fantastique. C'est l'imam qui prend en fait l'initiative de se réconcilier avec le pasteur et il ne le fait pas d'abord en parole. Il entend parler que la mère du pasteur est à l'hôpital. Il rend visite à la mère du pasteur. Et c'était le premier pas vers la réconciliation. Donc, dans ma vie, dans mon travail, j'ai pu me réjouir de voir des musulmans pardonner au point où j'ai eu honte en tant que chrétien. J'aurais aimé que des chrétiens puissent témoigner de cette magnanimité vis-à-vis des musulmans. Et puis n'oublions pas ce que les chrétiens appellent la grâce universelle, c'est-à-dire Dieu travaille dans le cœur des hommes, peu importe leur croyance, peu importe leur religion, Dieu est un Dieu de grâce et sa grâce est à l'œuvre dans le cœur de tous les hommes. Et elle se manifeste de beaucoup de façons, y compris au niveau du pardon lorsque des gens se réconcilient. C'est l'œuvre de Dieu en fait qui se manifeste, qu'ils croient en lui ou qu'ils ne croient pas.
Ça me fait rappeler l'émir Abdelkader, après son intervention, son intercession, en tout cas en 1862 à Damas, pour sauver les chrétiens maronites d'un véritable pogrom, il a reçu une lettre de Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuis, évêque d'Alger, en lui disant « Mais tu n'as pas de ressentiment contre les chrétiens, enfin, d'une manière générale, et à l'époque la citoyenneté étant confessionnelle, on a confondu français et chrétiens. » Et la réponse de l'émir était « Pas du tout, je n'ai rien fait d'autre que de me conformer à l'aphorisme prophétique qui dit que les hommes sont enfants de Dieu, et le plus proche parmi eux de Dieu est le plus utile à ses enfants, et on ne peut être utile aux enfants de Dieu qu'en pardonnant et en agissant pour le bien commun. »
Tout à fait. Nous avons dans l'histoire des exemples de ce type qui nous réjouissent et qui nous montrent que Dieu est à l'œuvre dans la vie de tous les hommes, quelle que soit leur religion, et qu'il ne faut jamais limiter les gens à leur croyance ou à leur non-croyance. Bon, pour les chrétiens, Dieu a créé les hommes à son image. Donc, c'est fantastique. Enfin, ce n'est pas étonnant que les hommes puissent s'exprimer, refléter le caractère de Dieu, puisqu'ils sont créés à l'image de Dieu. Donc, pour ça, on ne peut pas désespérer même du pire criminel. C'est pour ça que les chrétiens ne sont pas pour la peine de mort. Parce que on ne peut pas condamner quelqu'un, même le pire des criminels. Il est toujours à l'image de Dieu et Dieu peut toujours faire ressortir cette dignité divine et le condamner à mort, c'est lui interdire en fait la possibilité de revenir à Dieu et demander pardon.
Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam de Ral Ben Cher. Aujourd'hui, l'invité était Shawkat Mukhari et nous avons parlé de pardon et de réconciliation. La base de discussion était l'ouvrage paru chez Et Pro, édition Et Pro, À tout péché miséricorde. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Mathieu Tourin. La réalisation est assurée par Guillaume Baldi.